Merci. Et on continue sur les questions judiciaires avec Solène de la Cabane Juridique, également à Calais.
Bonsoir. Alors, juste rapidement, la Cabane Juridique, c'est une petite asso d'accès au droit. On intervient à Calais depuis janvier 2016. Et à l'origine, notre public, c'est les exilés. Enfin, clairement, ce sont les personnes étrangères avec ou sans papier. Mais en tout cas, ce n'était pas les soutiens. Enfin, c'était pas le but, on va dire, à l'origine. Juste pour dire que sur la question des oppressions, bien sûr, je pense que ça ne fait de doute pour personne que les premiers réprimés et les premiers résistants à la frontière, ce sont les personnes exilées. Laure a cité tout ce qui était la rétention, ce qui était les contrôles d'identité, ce qui était pour Loane les expulsions aussi quotidiennes. Il y a aussi la question des fichages des personnes étrangères qui ont des impacts forts sur l'accès au droit. Par exemple, nous dernièrement, on a une décision sur une personne qui voulait qui allait en préfecture pour une demande de réexamen, donc de sa demande d'asile, et qui s'est vu opposer en face une mention au fichier des personnes recherchées. Typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne a été mise pendant 5 heures sur le côté. On a considéré qu'on suspendait son droit à faire une demande de réexamen. La police est venue, elle l'a embarqué. C'était une interpellation. Il est allé jusqu'au poste de police pour recevoir une convocation pour quelques jours après, pour que quelques jours plus tard, il se voit remettre alors une ordonnance pénale. Pourquoi? Eh ben, tout simplement pour des amendes des SNCF non payées. Alors pourquoi non payées? Parce que cette personne qui est demandeuse d'asile, ou qui l'a été en tout cas et qui l'est toujours, n'a pas d'argent. Et donc en termes de mobilité, ben, c'est compliqué. Donc voilà, donc juste pour vous dire que le fichage des personnes étrangères s'applique aux étrangers anglais, par exemple, qui souhaitent venir à Calais ou dans d'autres régions en France pour manifester leur soutien. Mais c'est bien sûr aussi les premières fichées sont les personnes étrangères, hein, puisque à partir du moment où elles rentrent sur le territoire, que ce soit dans le cadre d'une demande d'asile ou tout simplement parce qu'elles vont être interpellées et parce que dégradation de camion et donc peut-être poursuite pénale pour dégradation, leurs empreintes vont être prises. Donc voilà, c'était juste pour ajouter sur le fichage. Je vais peut-être un peu plus parler de la question des soutiens, bien qu'encore une fois, hein, je vous dis, pour moi, les premières concernées restent les personnes exilées. Sur les soutiens, alors nous, ça date à peu près de janvier 2017. Pourquoi cette date? Parce que c'est le démantèlement des 9000 personnes, l'expulsion des 9000 personnes du bidonville de Calais en octobre 2016. Et donc, en fait, s'organise à partir de janvier 2017 une sorte de politique accrue, parce que, encore une fois, ce n'est pas nouveau, de répression à Calais, donc d'abord contre les personnes exilées, puis aussi contre leur soutien. La répression à Calais date des années 90, hein, soyons clairs, hein, c'est pas nouveau. La répression, elle s'organise dans toute la France depuis bien plus longtemps, et dans notamment certains quartiers. On parle de Calais, mais on pourrait parler aussi d'autres régions de France, hein, régions frontières. La spécificité peut-être à Calais, c'est que, on l'a aussi beaucoup dit, c'est une sorte de laboratoire des pratiques. Donc ce qui va se passer là-bas et ce qui fonctionne bien en général pour tout ce qui est question de répression, on va l'appliquer ailleurs. Voilà. Sur la question des... Donc on est en janvier 2017 et donc il y a très peu de personnes exilées qui sont de retour, mais quelques-unes qui reviennent quand même. Et donc les soutiens s'organisent pour continuer, on va dire, donner de l'eau, de la nourriture, des tentes, des duvets. Et donc là, la police, qui est alors très présente, on a toujours une présence policière et gendarme à Calais très très importante, donc plus de 2500 officiers de police et gendarmes, il faut imaginer, c'est énorme pour cette ville. Donc qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils se mettent à traquer les soutiens. Donc il faut imaginer des bénévoles de toute tendance, des personnes indépendantes qui ne sont pas affiliées à des associations, qui voient en fait, qui sont suivies dans tous leurs mouvements et dans toutes leurs activités. Donc, on parle ici de la répression, on va dire, des personnes soutien. Ce que je pensais aussi important de préciser, c'est qu'on a la répression qui va clairement être identifiée ou clairement être liée à l'activité soutien. C'est-à-dire, moi, X, j'interviens auprès des exilés ou j'interviens à la frontière pour le respect des droits ou pour, juste donner de l'eau ou de la nourriture. Et on va avoir aussi la répression qui va s'organiser auprès de certaines personnes en particulier qui vont être identifiées en fait par les services de police comme des personnes cibles ou des personnes qui seraient quelque part nuisibles à notre société et qui vont subir encore plus cette répression. Sur la question des activités liées, alors on parle souvent des procès, on parle souvent des poursuites au pénal, donc des gardes à vue qui déboucheraient qui déboucherait sur des poursuites, qui déboucherait sur un procès. Ça prend des mois et des années. Comme parlait Loane, c'est extrêmement fatigant, épuisant pour les personnes. Mais en fait, c'est finalement la minorité des situations. Ce qui s'organise réellement, c'est tout ce qui se passe en amont. Et c'est véritablement ça qui va avoir un poids et qui va décourager, qui peut décourager des solidarités. Ça va être tout ce qui va être mis en place, en fait, qui vont aller, bon, on parle du contrôle, hein, mais le contrôle, voilà, c'est typiquement, vous dites, bon, un contrôle de contrôle, on a connu jusqu'à 10 contrôles par jour. Donc ça, c'est OK en premier, mais il y a aussi cette présence absolument partout. Vous êtes partout, vous allez acheter le pain, vous êtes en face, vous êtes chez vous, vous voyez la police qui passe 5 à 6 fois par jour devant votre maison, qui ralentit quand elle approche devant votre porte, par exemple. Ça va être aussi, on vous convoque. Donc, Laure en parlait, on vous convoque pour des faits de troubles de voisinage ou de dénonciation du voisinage, par exemple. Ça va être des... alors, j'avais quelques exemples que je trouvais assez parlantes, mais... assez parlants, pardon. Mais ça va être aussi tout ce qui va être, contrôle des véhicules, à répétition, bien sûr, des établissements aussi. Donc, c'est l'auberge, Loane n'en a pas parlé, mais par exemple, avoir des services d'hygiène qui viennent faire des contrôles réguliers sur le lieu. Ça va être aussi l'interdiction à certains territoires. Alors, ça veut dire quoi ? Un territoire, à la limite, le territoire national, on sait déjà que c'est une réalité. Les personnes sont interdites de territoire, qu'elles soient étrangères parce qu'elles ont des interdictions de territoire. Elles le sont en général, hein, si elles ont des interdictions, excusez-moi, c'est répété. Mais ça peut être aussi des interdictions de territoires locaux. Par exemple, je suis interdit de telle ou telle zone. Alors, je pense aux personnes qui ont des contrôles judiciaires qui ne peuvent pas, par exemple, le temps que leur procès advienne, ne peuvent pas aller dans certaines zones. Donc ça va être pour des journalistes, par exemple, de ne pas pouvoir accéder au Calaisis, puisque, a priori, l'infraction aurait été commise dans le Calaisis. Pour d'autres personnes, ça peut être, suite au démantèlement de Calais, c'était une haute zone, a priori, Calais, donc on ne pouvait plus accéder à cette zone. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec la zone de protection, qui a été établie par le préfet, et en fait, qui ne permettait pas aux personnes non accréditées d'y accéder. Non accrédité, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que vous deviez demander l'autorisation pour accéder à un espace qui est très important. Hein. On n'est pas sur 2 mètres carrés, 10 mètres carrés, 20 mètres carrés. C'est la lande de Calais avec ses rues aux alentours. Et en fait, vous deviez demander l'autorisation à la préfecture pour y accéder. Mais il n'y avait pas de règle, c'est-à-dire que c'était absolument discrétionnaire. Bizarrement, certaines personnes bien connues du milieu militant ou certains journalistes un peu trop peut-être critiques se sont vus refuser une accréditation. Voilà, la cabane juridique par exemple, on nous a autorisé l'accès des personnes qui s'occupaient des mineurs, mais alors ceux qui faisaient de l'observation des pratiques policières et gendarmes ont été refusés. Voilà, donc c'est pour vous dire, on en était à ce point-là. C'est aussi tout ce qui est manifestation, mais nous carrément jusqu'à la manifestation interdite. C'est-à-dire que très longtemps à Calais, jusqu'au 23 septembre dernier, on avait l'interdiction de certaines manifestations, comme il y a eu à Lille aussi. Alors, le danger qu'on nous opposait, c'était qu'il y avait des personnes de l'extrême droite, bien sûr, qui allaient venir et nous attaquer. Mais ce qui a fait que pendant plusieurs mois, voire des années, en fait, les manifestations étaient quasi systématiquement interdites à Calais. Donc, ce qui pose quand même question. Et quand bien même elles avaient lieu, eh bien, en fait, il y avait des interpellations pendant ces manifestations. Et là, je pense notamment au 23 septembre, manifestation pour la paix, événement national qui n'est pas forcément lié tout de suite, on ne pense pas tout de suite aux exilés. Hein. Et pourtant, on a 4 interpellations, 2 autres qui interviennent quelques jours après. Et pour au final quoi ? Pour au final, des relax. Donc voilà, donc juste pour vous dire que ça questionne quand même. Enfin, on a toujours lié aux activités, au soutien des exilés, on a tout ce qui est la veille sur les publications. Il faut savoir qu'à Calais et je pense dans sa région, donc on touche Grande-Synthe, on touche Lille aussi, les policiers sont extrêmement vigilants sur les publications. Ils font en fait le tour des pages Facebook, que ce soit les pages Facebook personnelles, mais aussi les pages d'associations, avec des personnes derrière qui peuvent être convoquées en audition libre suite à des publications. Donc c'est pour ça que nous, au sein de la cabane, on essaye de former les personnes, ou en tout cas de les alerter sur ce risque-là en disant bien faites attention quand vous publiez, par exemple soyez sûr des faits que vous publiez ou ce genre de choses, puisqu'on a vraiment une police très très vigilante sur les publications. On a par exemple des hébergements solidaires qui ont été convoqués en audition libre parce qu'ils avaient publié des commentaires, on va dire, un peu critiques sur les actions des forces de police. Voilà. Je vais passer parce que je pense qu'il faut avancer. Sur la question des personnes en tant que telles, on a des personnes très identifiées à Calais et dans sa région, et pour certaines qui sont identifiées depuis des années. Donc c'est vraiment, ça ne date pas de 2017. Ce sont des personnes qui sont identifiées Antifa ou qui vont être identifiées No Border. Alors on en a beaucoup entendu parler, mais pas que. Enfin, clairement des personnes qui vont être identifiées comme dangereuses. Alors avec des déclarations publiques qui sont très fortes. On a quand même la maire Natacha Bouchard qui accuse ces personnes de vendre des armes. On a l'impression qu'on est vraiment sur de la lutte armée. On est vraiment sur de la guérilla urbaine, visiblement. Puisque, voilà, bon, il n'empêche qu'il n'y a pas vraiment de condamnation pour détention d'armes, mais a priori, la maire est très convaincue de ça. Et donc, ça va être des personnes aussi affiliées à des syndicats, ou affiliées à des partis politiques comme le Parti communiste. Donc là, on revient quand même à des heures assez sombres de l'histoire française. Donc voilà, donc ce sont des personnes qui vont être particulièrement ciblées par les forces de police dans leurs activités au quotidien, militantes, associatives, mais aussi dans leur vie professionnelle. Donc, par exemple, on a un exemple en 2016 d'une institutrice qui est affiliée au Parti communiste et qui est très, très syndiquée, enfin qui est syndiquée, mais qui est surtout très active depuis des années. Qui est au détour d'une minute de silence, commémoration pour les morts à la frontière, est interpellée par la police, placée en garde à vue, et qui finalement sera condamnée parce qu'elle avait un Opinel dans son sac. Voilà. Donc juste pour vous dire que ça arrive, hein, voilà, c'est aussi une réalité. On a tout ce qui est musicien. Alors les musiciens de la Batucada, vous connaissez, je pense qu'à Paris, vous devez en avoir. Nous, à Calais, on a le ROR, Rhythm of Resistance, donc qui sont avec Lille, avec la Belgique. Donc c'est vraiment la samba, vous voyez un peu ceux qui jouent, donc qui sont présents lors des événements et qui sont aussi particulièrement ciblés. On sait tout le temps, lorsqu'il y a un événement, que ce sont les premières personnes qui vont être ciblées. Pourquoi ? Parce que lors des précédentes manifestations, ils ont été systématiquement interpellés. Donc voilà, donc vous imaginez vraiment, hein, c'est les joueurs avec habillés en rose, avec des vêtements flashy, des nuisettes roses, hein, c'est vraiment ces personnes-là qui sont interpellées. On a aussi, puis je finirai sur ça, on a aussi toutes les personnes qui vont être identifiées comme des ouvreuses de lieux ou ouvreurs de lieux à Calais, puisqu'à Calais, on a quand même une brigade anti-squat qui est très, très, très active. Et on a aussi des appels réguliers de la maire de Calais à la dénonciation, c'est-à-dire à la délation. Et elle invite les habitants de Calais à dénoncer les habitats qui ne seraient pas tout à fait réguliers. Et donc cette brigade qui est très, très active va faire en sorte que, par exemple, des propriétaires peuvent être appelés quand des personnes qui sont identifiées comme personnes étrangères sont dans un lieu, en fait. Un voisin appelle, signale à la mairie, et derrière, la brigade anti-squat va appeler le propriétaire en demandant des comptes sur les habitants, sur les personnes hébergées ou même qui habitent dans cet appartement, sachant encore une fois que ça repose que sur le faciès. Hein. On est d'accord qu'à aucun moment là, il n'y a de contrôle d'identité. Mais c'est aussi les lieux qui sont, on va dire, squats. Donc ça va être toutes les personnes qui vont soit avoir déjà ouvert des lieux, soit sont dans, on va dire, le soutien aux lieux qui ont déjà été ouverts par le passé et qui vont être clairement identifiés. Et donc quand ces personnes en particulier vont, par exemple, en mars 2017, ouvrir un lieu symboliquement, en mettant, après le démantèlement, en mettant une grande banderole « Solidarité entre les peuples », on va avoir combien de CRS ? On va en avoir 150 qui interviennent, en fait, pour déloger 8 personnes qui sont sur le toit et qui chantent des chansons. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire on est à un niveau assez, assez élevé qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs l'ouverture de lieux à Calais est très compliquée, vous vous en doutez. Mais donc voilà, donc là il y a des procès en cours, demain il y en a un, c'est un appel justement pour ce fameux lieu, mais aussi en décembre, sur En fait, c'est des personnes qui sont poursuivies et finalement tout tombe. Ne reste souvent à la fin que refus de signalétique, c'est-à-dire refus de donner ses empreintes. Mais voilà, juste pour vous dire que c'est une réalité et que ça ne va pas, et ça c'est très important, ça n'a même pas besoin d'aller jusqu'au procès pour faire déjà son effet, pour faire peur, intimider. Sur la question des hébergements, c'est exactement ce qui se passe. On intimide, on fait des visites domiciliaires. Et qu'en fait, c'est tout ça, en fait, la répression, c'est ce qui va... alors même qu'un juge ne se prononcera peut-être jamais en fait, sur ce que vous avez pu faire, c'est ce qui va vous, peut-être vous maintenir en arrière de la solidarité. Voilà.